Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue, la Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Camille Grosdidier pour un bulletin d'information. Bonsoir. Le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, chargé par l'armée burkinabé de conduire la transition au Burkina Faso suite au départ de l'ex-président Blaise Compaoré, a annoncé samedi le rétablissement de la Constitution. Elle avait été suspendue après la démission de Compaoré suite aux violentes manifestations de rue contre sa tentative de briguer un nouveau mandat. M. Zida a par ailleurs réclamé aux acteurs de la classe politique d'identifier d'ici au dimanche 16 novembre à midi, heure locale, leur candidat à la présidence de transition. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui s'était déclarée fin août à Djira, dans la province de l'Équateur, est terminée. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Félix Kabange Numbi. Il a invité les populations à pratiquer des mesures d'hygiène scrupuleuses, notamment en se lavant les mains au savon ou à la cendre. Ils doivent également éviter de consommer des animaux retrouvés morts dans la forêt, dont la chair pourrait être contaminée par le virus à Ebola, a ajouté le ministre. Par ailleurs, un chirurgien sierra-léonais souffrant de l'Ebola a été évacué samedi vers les États-Unis. Le docteur Martin Salia travaillait à l'hôpital Connaught de Freetown, dans la capitale sierra-léonaise. Il est le premier ressortissant sierra-léonais souffrant d'Ebola et transporté aux États-Unis, pays où l'on a déjà traité 9 autres cas du virus. Il sera soigné au Nebraska Medical Center d'Omaha, l'un des hôpitaux spécialement équipés pour traiter les patients souffrant de la fièvre hémorragique. Tous les malades déjà traités aux États-Unis ont survécu, à l'exception d'un Libérien venu de Monrovia qui lui est décédé le 8 octobre à Dallas, au Texas. Une minute de sport, on commence avec le football. Le Cameroun a décroché sa qualification pour la CAN 2015 en battant la République démocratique du Congo samedi à Yaoundé 1-0. En déplacement au Lesotho, les étalons du Burkina Faso se sont imposés 1-0. Défaite du Mali battue 2-0 par le Malawi et les Black Stars du Ghana ont chuté 1-0 face à l'Ouganda. En tennis, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, s'est qualifié pour la 4e fois de sa carrière pour la finale du Masters en dominant le Japonais Kei Nishikori en 3-7, 6-1, 3-6, 6-0 samedi à Londres. Et en championnat nord-américain de basketball, la NBA, LeBron James a inscrit 41 points pour mener Cleveland à la victoire face à Boston vendredi soir, 122-121, un match acharné. En tant que seule superpuissance au monde, les États-Unis ont une responsabilité unique, a déclaré Barack Obama samedi dans un discours à l'Université du Queensland à Brisbane en Australie. En marge du sommet du G20, le président américain a souligné qu'il incombe aux États-Unis de détruire l'État islamique, de mener la riposte internationale contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et de lutter contre le changement climatique. Mais il a également promis que Washington reportera également ses efforts sur la région Asie-Pacifique. Toujours concernant le G20, le premier ministre australien Tony Abbott, qui a ouvert la rencontre à Brisbane, a appelé les dirigeants des 20 grandes puissances économiques de la planète à appuyer une initiative visant à renforcer la croissance économique mondiale. Et pour ce faire, il leur a demandé de débourser jusqu'à 2 000 milliards de dollars au cours des prochaines années. Entre-temps, le président russe Vladimir Poutine, qui a été confronté à de vives critiques concernant l'intervention russe dans l'est de l'Ukraine, aurait décidé de quitter le G20 plus tôt que prévu, ont annoncé ses collaborateurs. Et puis le général américain Martin Dempsey, président du comité des chefs d'état-major interarmés, a effectué samedi une visite surprise en Irak pour s'entretenir avec des responsables irakiens et des commandants américains.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Washington, la voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, Journée mondiale contre le diabète, l'Afrique subsaharienne est particulièrement menacée.
En Afrique actuellement, la plupart des diabétiques ne se reconnaissent pas eux-mêmes en tant que tels. Nos chiffres disent que plus de 62% des cas sont non diagnostiqués en Afrique.
On entendra le docteur Belma Malanda de la Fédération internationale du diabète. Alors que l'Agence spatiale européenne posait une sonde sur une comète, une équipe internationale d'astronomes déchiffrait les mystères du système stellaire triple de GG-TOA.
Un des intérêts de ce système GG-TOA, c'est qu'en fait, c'est un système qui est relativement brillant. La séparation des étoiles est telle que l'anneau est assez étendu.
Anne Dutray, du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et du CNRS, reviendra sur les travaux de l'équipe qu'elle a dirigée. Et des chercheurs américains démontrent que la télépathie n'est plus seulement une fantaisie des romans de science-fiction. Journée mondiale contre le diabète, le 14 novembre, l'Afrique subsaharienne est particulièrement menacée par ce fléau. Au fur et à mesure que les populations adoptent une alimentation similaire à celle des pays développés, à savoir trop riche en graisse et sucre. Pour plus de précisions, on écoute le docteur Belma Malanda de la Fédération internationale du diabète.
En 2014, le diabète touche environ 387 millions de personnes dans le monde et les projections qui sont faites d'ici 2035 sont plutôt très très alarmantes, faisant montrer qu'on pourrait atteindre, en plus de ces 387 millions, plus de 205 millions nouveaux cas de diabète, ce qui met vraiment tous les systèmes de santé sur le plan mondial en danger. Donc c'est vrai, un problème croissant et certains épidémiologistes n'hésitent pas à parler d'une épidémie du diabète.
En Afrique subsaharienne, le diabète est de plus en plus signalé. C'est dû à quoi?
L'Afrique est un des pays où nous voyons la tendance devenir alarmante aussi. Il y a plusieurs facteurs au fait qui font que l'Afrique devient un cas à part pour le diabète. Il y a plus de 21 millions de personnes qui sont atteintes de diabète en Afrique. La plupart des experts dans le domaine mettent souvent en cause la westernisation de la région africaine, ça veut dire le changement du mode d'alimentation, des modes typiquement traditionnels avec des aliments frais et sains, vers un monde où on consomme plus des aliments qui ne sont pas préparés, plus des aliments qui ne sont pas naturels et frais. Il y a aussi beaucoup de facteurs polluants aux alentours, mais aussi, parlant des chiffres, c'est aussi dû au fait qu'il y a de plus en plus de nouvelles études. Parce que l'un des points noirs de l'Afrique, c'était le manque d'études fiables pour évaluer les problèmes du diabète. Maintenant, il y a de plus en plus d'instituts africains qui font des études pour analyser leur prévalence sur le diabète. Les chiffres étant disponibles, nous voyons maintenant l'ampleur du problème en Afrique.
Comment est-ce que les gens peuvent se protéger contre cette maladie? Parce que, en fait, très souvent, même des personnes bien éduquées n'en sont pas conscientes.
C'est vrai que le diabète actuellement est un réel problème de santé publique, mais des mesures tout à fait simples peuvent aider les pays, les communautés et les gens à modifier leur manière de vivre et de ce fait de réduire le poids du diabète. La première chose, c'est d'adopter des attitudes saines d'alimentation. Manger frais, manger des légumes, manger de la nourriture bien préparée. La deuxième chose, c'est d'adopter des attitudes en termes d'activité physique. Bouger, 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 c'est le maître mot en termes d'attitude physique. Nous demandons aux gens de bouger plus, ça leur permet de rester en bonne santé. Mais aussi, il faut réduire d'autres habitudes telles que l'alcool, la cigarette et autres. Mais le maître mot, c'est vraiment une bonne alimentation saine et une bonne activité physique. Et cela pourrait aider à réduire sensiblement le poids du diabète et les nouveaux cas de diabète en Afrique.
Le docteur Belma Malanda de la Fédération internationale du diabète qui était joint à Bruxelles. Washington, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour le magazine Carrefour Science et Santé. Trois centres de traitement de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, gérés par Médecins sans frontières, vont accueillir prochainement des essais cliniques de traitement contre le virus à Ebola. C'est ce qu'annonçait l'ONG jeudi en précisant que des études distinctes seront menées par trois partenaires de recherche avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et des autorités sanitaires des pays affectés par l'épidémie, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Jointe à Genève, le docteur Annick Antierens, qui coordonne les essais pour MSF, a expliqué que le choix des antiviraux s'est fait sur plusieurs critères. Il fallait qu'ils soient connus, sûrs et disponibles en quantité suffisante. Pour plus de détails, on écoute Madame Antierens.
Il y a trois essais qui sont planifiés, deux avec des produits qui sont déjà employés pour d'autres indications contre d'autres virus, ce sont des antiviraux, dont un, on sait déjà qu'on va pouvoir commencer à Guéquédou en Guinée, avec l'Institut national de santé et de recherche médicale française. Et le deuxième produit, c'est avec l'Université d'Oxford. Et pour cela, on n'a pas encore les derniers détails sur quel site on va prendre. On est en négociation avec les gouvernements, mais on n'a pas encore la réponse finale. Donc on ne peut pas citer de site par rapport à cet essai-là. Et le troisième essai que nous voulons mener est un essai sur le plasma et le sang convalescent avec l'Institut Tropical de Anvers, en Belgique. Et cet essai-là va commencer à Conakry, en Guinée.
Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ces antiviraux, notamment le favipiravir et puis le brincidifovir?
Nous sommes partis avec nos partenaires d'une liste de produits présélectionnés par l'OMS. L'OMS, en consultation, a présélectionné une dizaine de produits qui étaient susceptibles d'avoir une efficacité sur le virus et qui ne sont pas des médicaments qui peuvent avoir juste un effet sur l'immunité, le renforcement de la personne ou sur des symptômes qui sont produits par le virus de l'Ebola. Et cette liste d'une dizaine de produits, avec nos partenaires, nous les avons scrutés selon des critères bien définis, qui sont les données existantes qu'il y a déjà sur l'efficacité. Et ça, ce sont des données qui sont suite ou bien à des essais en laboratoire, en in vitro, ou bien des études qui ont été menées sur des animaux. Le deuxième critère était un critère de sécurité, de s'assurer que si le médicament avait déjà été employé chez des humains, qu'il n'y avait pas de problème d'effet secondaire majeur, s'il n'avait pas été étudié sur des humains, que les animaux n'avaient pas montré d'effet secondaire majeur. Le troisième critère était un critère de disponibilité. Il fallait évidemment avoir suffisamment de médicaments pour pouvoir faire l'essai, mais aussi nous voulions avoir une garantie qu'il y aurait suffisamment de disponibilité des médicaments pour pouvoir donner beaucoup plus largement si l'essai démontrait une belle efficacité. Qu'on ne soit pas obligé d'arrêter de donner un médicament efficace aux patients sous prétexte que l'essai était fini, alors que le produit montrait une bonne efficacité. Et le dernier, qui est moins important, mais qui a quand même aussi eu son mot à dire dans la balance, c'est la facilité d'administration. C'est beaucoup plus facile d'administrer des tablettes, des comprimés, que de faire des infusions qui durent plusieurs heures. Donc les deux produits sélectionnés ont été sélectionnés parce qu'ils ont démontré de l'efficacité dans les modèles ou in vitro ou chez les animaux, qu'on avait déjà des données chez les humains puisque ce sont des médicaments qui sont déjà employés et étudiés pour d'autres indications. Donc on a beaucoup de données sur la sécurité et les effets secondaires. Trois, parce qu'il y a une grosse production possible. Il y a déjà énormément de comprimés disponibles. Et qu'en plus, monter la production n'est pas un processus très difficile. Et la dernière, c'est que comme ce sont des tablettes, c'est facile à administrer.
Le docteur Annick Antierens de Médecins sans frontières qui était jointe à Genève. Au micro, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé. Un programme de la Voix de l'Amérique. L'épidémie de virus à Ebola en Guinée affecte la lutte contre le paludisme dans le pays, certains cas de cette maladie étant confondus avec la fièvre hémorragique, signale notre correspondant en Guinée, Karim Camara. Une situation d'autant plus préoccupante que selon l'Organisation mondiale de la santé, la Guinée compte parmi les 10 pays qui enregistrent les taux de malaria les plus élevés au monde. Selon le coordinateur national de la lutte anti-paludéenne, le docteur Timothée Guilavogui, 44% des Guinéens souffrent d'un accès de palu chaque année, c'est-à-dire 5 millions de personnes, et au moins 10 en décèdent chaque semaine. Comme certains des symptômes du paludisme sont similaires à ceux de la fièvre à Ebola, les gens ont du mal à se faire soigner, d'autant que le personnel de santé redoute le virus à Ebola, explique le docteur Guilavogui.
Il y a une baisse également de l'assiduité du personnel. Donc certains personnels de santé préfèrent ne même plus aller dans les structures de santé, au risque de ne pas être infecté ou au risque d'être stigmatisé.
Le personnel soignant ayant peur de contracter l'Ebola, il abandonne carrément certaines préfectures où sévit la maladie, ajoute le docteur Guilavogui.
Aujourd'hui, avec les partenaires, dès que vous commencez à planifier la supervision, certains ne veulent pas aller dans les préfectures à foyer actif. Donc ces préfectures risquent d'être abandonnées et laissées pour compte.
L'épidémie d'Ebola nécessitant tous les efforts de la communauté médicale en Guinée, la lutte contre le paludisme perd du terrain, poursuit le coordinateur national de la lutte anti-paludéenne en Guinée. Washington, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé, un programme diffusé par La Voix de l'Amérique. Tous les amateurs de science-fiction connaissent la télépathie. Mais voilà, des travaux menés par des chercheurs américains montrent qu'elle deviendra peut-être un jour une réalité. Anne Robertson.
Des scientifiques de l'Université de Washington affirment que des signaux envoyés par le cerveau d'une personne pourront un jour parvenir au cerveau d'une autre personne. Ils affirment que grâce à la télépathie, des sujets ont déjà pu contrôler la main d'autres participants au cours d'une expérience. Les signaux envoyés par les cerveaux des premiers sujets au second étaient transmis par Internet. Trois couples de participants se trouvaient dans des bâtiments différents sur le campus de l'Université de Washington, sans possibilité de communiquer ou de se voir. Les premiers sujets étaient connectés à un électroencéphalographe pour mesurer l'activité électrique cérébrale. Ils devaient visionner un jeu vidéo consistant à tirer sur un navire pirate ou à bouger la main pour lancer des roquettes. Les signaux émis par le cerveau étaient transmis par Internet à l'autre participant qui portait un casque avec une bobine transcrânienne pour la stimulation magnétique. Cette bobine se trouvait près de la région du cerveau qui contrôle les mouvements de la main. Cette personne ne pouvait pas voir le jeu vidéo, mais lorsque l'expérience était concluante, elle sentait sa main bouger et tentait d'appuyer sur un touchpad, un pavé tactile, pour lancer la roquette. Selon les chercheurs, l'expérience a été concluante dans 25 à 83% des cas. Prochaine étape, les chercheurs comptent utiliser un don $1 million pour développer des technologies permettant de transférer des informations plus complexes directement d'un cerveau à un autre. Les résultats ont été publiés dans la revue PLOS ONE.
Ici Washington, La Voix de l'Amérique, vous suivez Carrefour Science et Santé en compagnie de Camille Grosdidier. On se tourne vers l'espace. Le robot Philae de l'Agence spatiale européenne qui a réussi cette semaine l'exploit de se poser sur la comète 67P Chiriou-Mauve-Gerassi-Menco a pu procéder à un forage vendredi. Mais il se peut que Philae cesse ses activités faute d'énergie et il n'est pas certain que ses ultimes données parviendront à temps sur Terre. Voilà le robot qui a été déployé par la sonde Rosetta, actuellement en orbite autour de la comète, s'est posé dans l'ombre d'une falaise. Donc, ses panneaux solaires ne peuvent pas prendre le relais de sa pile, malheureusement. Toujours concernant l'espace, une équipe internationale d'astronomes a mené l'étude la plus précise à ce jour du cocon de gaz et de poussière du système Gégétoa. Leurs mesures ont révélé que Gégétoa est en fait un système stellaire triple, c'est-à-dire composé de trois étoiles. Il est également entouré d'un disque de poussière. Les chercheurs ont ainsi détecté pour la première fois des mouvements de matière démontrant que des exoplanètes peuvent se former non seulement autour d'un des membres de ce trio d'étoiles jeunes, mais aussi à très grande distance dans le disque entourant les trois soleils. Ce travail a été mené par une équipe dirigée par Anne Dutray du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et du CNRS. On l'écoute.
Alors, GG Toa, il faut imaginer que c'est une étoile binaire, donc une étoile double, qui se trouve dans la constellation du Taureau, à 450 années-lumière de nous, et qui est en fait formée de deux étoiles qui sont de futurs soleils. Donc en fait, ce sont des soleils jeunes, quand le soleil avait à peu près 1 million d'années. Et c'est à ces âges-là que l'on sait que l'on forme les planètes. Alors autour de cette étoile double qui tourne autour de son centre de masse, proche de chaque étoile, on s'attend à trouver du gaz, de la poussière qui sont en rotation autour de l'étoile, en rotation comme nos planètes tournent autour du Soleil. En fait, ce gaz et cette poussière sont un résidu du gaz, de la poussière qui a formé l'étoile.
Les trois étoiles détectées par cette équipe internationale créent, dit-on, une cavité. Mais qu'est-ce que c'est qu'une cavité ?
Alors, la cavité, c'est une zone instable dynamiquement où la matière qui s'y trouve ne peut pas rester tranquillement en orbite autour des trois étoiles, mais va tomber sur les étoiles. Et en fait, elle va tomber sur les disques qui se trouvent autour des disques dits circumstellaires qui se trouvent autour de chaque étoile. Voilà. Et la matière qui tombe, cette matière vient de l'anneau circumbinaire qui se trouve beaucoup plus loin sur une orbite stable, c'est-à-dire qu'en fait cet anneau tourne autour du système triple, non pas autour des étoiles individuelles.
Oui, en fait, il y a ces trois soleils et si on regarde l'image qui a été diffusée, on voit un superbe anneau brillant, lumineux autour et ça donne un effet vraiment magique. Évidemment, c'est une interprétation d'un artiste. Alors, est-ce que vos travaux signifient que des exoplanètes peuvent se former non seulement près d'étoiles jeunes, mais aussi à grande distance de Soleil ?
Tout à fait. À l'heure actuelle, la quantité de matière qui se trouve dans l'anneau, ce que vous appelez l'anneau brillant, aussi bien que la quantité de matière qui se trouve autour de GG Toa AA, qui est le nom d'une des trois étoiles autour duquel il y a un disque de gaz et de poussière, la quantité de matière que l'on a mesurée montre que l'on pourrait très bien, plus tard, envisager de former des planètes aussi bien dans le disque circumstellaire qui entoure GG Toa AA que dans l'anneau circumbinaire beaucoup plus loin.
Vos travaux permettent de mieux comprendre la formation des exoplanètes et même de notre propre système solaire.
Tout à fait. Un des intérêts de ce système GG Toa, c'est qu'en fait, c'est un système qui est relativement brillant. La séparation des étoiles est telle que l'anneau est assez étendu, ce qui fait qu'on peut tester à des échelles qui sont accessibles à la résolution de nos télescopes aujourd'hui, des effets physiques que l'on sait trouver sur des systèmes beaucoup plus petits pour la formation de planètes comme dans notre propre système solaire, puisque notre système solaire, il n'y a qu'une seule, une seule étoile.
Avec toutes ces découvertes d'exoplanètes, on s'aperçoit que notre système, en fait, n'est pas unique. C'est quelque chose qui se reproduit par milliers, voire millions de fois à travers l'univers.
Il est clair que le nombre d'exoplanètes aujourd'hui est très très impressionnant puisqu'on en est à plusieurs centaines. On découvre aussi, en particulier grâce à la mission Kepler, on a découvert un certain nombre de systèmes solaires avec plusieurs planètes. Donc effectivement, avoir des planètes semble être quelque chose de banal pour une étoile qui a la masse du Soleil.
On écoutait Madame Anne Dutreil du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et du CNRS. Les travaux des chercheurs ont été publiés dans la revue Nature. Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé, un programme de La Voix de l'Amérique. Parmi les effets néfastes du réchauffement climatique, la hausse du niveau des mers, ce qui contamine les réservoirs d'eau potable. On s'inquiète de la salinité croissante des eaux qui ne saurait servir aux cultures. Sauf qu'aux Pays-Bas, un exploitant agricole a trouvé le moyen de faire pousser ses récoltes avec de l'eau salée. Le point avec Morgan Guiriec.
La salinisation des sols progresse dans le monde et concerne un cinquième des terres irriguées. Une étude de l'Université des Nations Unies, publiée fin octobre, soulignait l'ampleur de ce phénomène qui fait perdre chaque année 1 à 2% des terres cultivées. Ce qui laisse Mark van Resselberg de marbre. Ce fermier néerlandais s'est lancé dans des expériences arrosant des lopins de terre avec de l'eau salée à différents degrés pour mieux identifier les plantes qui supportent la salinité.
We put in a lot of plants in the fields and then we put them in fresh water.
Nous plaçons beaucoup de plantes dans les champs et on leur administre de l'eau douce et de l'eau de mer et tous les mélanges possibles des deux. Et puis, on regarde quelles variétés peuvent survivre et lesquelles meurent, déclare Mark von Reiselberg. Le fermier travaille de concert avec des scientifiques de l'Université libre d'Amsterdam. Il a divisé sa ferme en 8 lots de terre couverts par un réseau de tuyaux d'irrigation. Certains distribuent de l'eau potable, d'autres de l'eau salée grâce à un système informatisé qui répand jusqu'à 8 mélanges. Et puis l'ordinateur dit « on y va ». Et l'eau part dans les champs et l'irrigation au compte-gouttes commence et on tue les plantes. Voilà, explique Mark von Reiselberg. De nombreux capteurs contrôlent en permanence la salinité et l'humidité des sols. Le fermier affirme avoir été en mesure de faire pousser et de récolter des légumes dans la plupart des parcelles mises à l'essai. Même s'ils étaient plus petits que la normale, ils contenaient davantage de sucre et de sel, de sorte que leur goût était meilleur.
It's a miracle. I mean, it shouldn't be a carrot.
C'est un miracle. Cela ne devrait pas être une carotte, s'émerveille Mark von Reiselberg en regardant l'une de ses carottes dans la main. Théoriquement, si on se réfère aux données disponibles dans le monde actuellement, elles devraient être en train de mourir. Sa ferme parvient à faire pousser non seulement ses carottes, mais aussi des choux-fleurs, des oignons et des betteraves. De surcroît, les pommes de terre se sont avérées particulièrement tolérantes à l'eau salée. 4 variétés ont été expédiées au Pakistan, où des milliers d'hectares endommagés par la salinité vont servir à un nouvel essai de ces pommes de terre.
Et pour finir cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique, eh bien, nous allons remonter dans le temps, plusieurs millénaires d'ailleurs. Voilà, des empreintes de pas probablement laissées par des pêcheurs il y a 5000 ans ont été retrouvées dans un très bon état de conservation sur une île au Danemark. Selon les paléontologues, ces empreintes dateraient de l'âge de pierre et seraient celles d'au moins 2 individus. Elles ont été retrouvées en même temps que des fragments d'outils de pêche. Les empreintes auraient été recouvertes par du sable après une tempête.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier qui vous remercie de l'avoir suivi.
Send up Africa, come on, some papa, come in a dawn, a dawn. Lubaringa, Lubaringa, Manula, no penny. Immense is your wealth, immense are your dreams. Sekulti atuna, se tere iswa. Manula deveni say way at say fetch teranga say dom